c'est la revue de presse des Hebdos. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
Le 1 titre, Ukraine, la bataille des chiffres.
Dorothée Olieri, grand reporter à France 2 signe, une chronique, raconter la ligne de front. La journaliste qui a couvert de nombreux conflits, du Rwanda à l'Ukraine, en passant par la Tchétchénie, évoque la difficulté de raconter les pays en guerre et les nombreux écueils qui menacent les reporters plongés dans ces environnements où il est impossible d'obtenir des informations totalement sûres et objectives. Elle termine ainsi son témoignage sur son expérience en Ukraine. « Je suis convaincue que nous n'avons pas besoin de faire dans le pathos. Les images parlent d'elles-mêmes. » Interrogé par Laurent Grail-Samer et Lou Elliot, le géographe Michel Fouché et le politiste Jean-Vincent Olindre donnent leur avis sur la réalité de cette guerre. Pour le géographe et ancien diplomate Michel Fouché, le Kremlin va perdre, car à force de vouloir intoxiquer les autres, on s'intoxique soi-même. Tout en soulignant la défaite morale et l'ampleur des pertes subies par la Russie, le politiste et directeur du centre Thucydide, Jean-Vincent Olindre, demeure lui plus prudent. Il ne faut pas céder à une forme de wishful thinking et croire que l'Ukraine va nécessairement gagner cette guerre parce que c'est ce qu'on désire. Ce conflit est appelé à durer, prévient-il. Les deux chercheurs font le point sur les enjeux et les moyens de la guerre informationnelle que se livrent les belligérants à coups de propagande et d'actions psychologiques, sans manquer de souligner une nette différence de nature entre la désinformation à outrance du Kremlin et les opérations de communication portées par Zelensky et les autorités ukrainiennes. Sur le poster, les stratèges de salon, ceux qui aiment suivre les combats de loin sur une carte en déplaçant de petits drapeaux, trouveront tous les chiffres concernant les capacités militaires de deux pays, la taille des armées sur le terrain, les pertes en matériel de chaque pays, les livraisons d'armes fournies de l'extérieur et aussi tous les chiffres des conséquences de guerre pour les deux pays.
La guerre et Poutine, Raphaël Glucksmann les analyse. Le président depuis 2020 de la commission du Parlement européen sur les ingérences étrangères est en couverture de l'Express.
Et dans l'entretien, il répond aux questions d'Axel Gilden et Charles Haquet. Et Glucksmann sait de quoi il parle quand il décrit comment la Russie mène sa guerre secrète sur le continent européen. La guerre hybride de Poutine déstabilise profondément nos sociétés démocratiques, dit-il. Il est fondamental de comprendre que cette guerre n'a pas commencé le 24 février 2022, ni même en 2014 lors de l'annexion de la Crimée et de l'occupation du Donbass, mais longtemps auparavant. De plus, elle ne se limite pas aux frontières de l'Ukraine, mais se déroule en Europe, en Afrique et ailleurs. Tous les événements guerriers qui ont eu lieu depuis le début du XXIe siècle font partie d'une grande confrontation qui se traduit militairement, Géorgie 2008, Syrie 2015, Ukraine, ou de manière indirecte, sans opération militaire. Je parle ici des ingérences menées lors des campagnes électorales, celles du Brexit au Royaume-Uni, les présidentielles aux États-Unis et en France, de la manipulation des opinions à travers les fake news propagées par les fermes à trolls d'Evgeny Prigojine sur les réseaux sociaux. Les campagnes anti-françaises signées par le groupe Wagner en Afrique, des cyberattaques contre nos institutions et nos hôpitaux pendant la pandémie, de la polarisation des débats sur des médias russes, RT, Sputnik, et du financement de mouvements politiques hostiles à l'Europe, sans oublier la corruption des élites qui acceptent de travailler pour une capitale étrangère hostile aux intérêts européens. À cela s'ajoute la persécution ou l'assassinat d'opposants russes sur sol européen. Et last but not least, la guerre énergétique qui vise à nous rendre dépendants de la Russie. La confrontation est partout à la fois. Alors si vous voulez frissonner davantage, eh bien rendez-vous dans l'Express.
Le canard enchaîné t'a mise dans tous tes états.
Eh bien oui, parce qu'il y a vraiment de quoi être scandalisé. En lisant à la une « Droit dans ses bottes » qui raconte ce qui s'est passé sur le plateau d'Hanouna, qui accueillait trois guignols usurpateurs qui se sont fait passer pour des membres de la brave M. offusqué en lisant « Ça a crié à la criée » où on apprend que M. Hervé Berville, le secrétaire d'État chargé de la mer, a décidé de ne pas obéir au Conseil d'État qui venait d'ordonner des suspensions de pêche pendant des périodes appropriées dans le golfe de Gascogne pour éviter des captures accidentelles des dauphins. Et il a même précisé que non, les engins de fond ne seraient pas interdits dans les zones marines dites « protégées ». Et dans le même esprit, dans Conflit de canards, l'article, un ministre très désherbé relate les relations du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et le puissant lobby des maïsiculteurs qui ont pour ennemi l'ANSES, qui lutte contre le S-métolachole, puissant herbicide cancérigène. Deux ministres qui ne nous veulent pas que du bien. Offensés aussi en lisant Une Révolution, chef qui décline toutes les contre-vérités lancées sans vergogne par notre ministre de l'Intérieur Darmanin et reprises par un certain nombre de journaux. Les opposants aux bassines seraient des éco-terroristes. La NUP ressemblerait à l'ultra-gauche des années 70, mais oui, etc., etc. La suite des fake news de ce même Darmanin dans la mare. Amusé quand même par le buzz suscité par l'interview avec photo, habillé quand même, accordé par Marlène Schiappa à Playboy. Ses collègues du gouvernement ont été choqués. Ils ne l'ont pas été quand c'était Dussopt qui était interviewé par Tétu ou Macron par Pif Gadget. Et amusé encore par Trump de fesses ou de profil. La guerre entre Trump le minuscule. Il s'agit de son anatomie décrite par Stormy, la femme en question, qu'il appelait lui « tête de cheval », c'est le surnom qu'il lui donnait. Alors mieux qu'un combat de catch, le duel sous la ceinture, une spécialité américaine.
En couverture de courrier international, une photo signée Kalpesh Latigra, intitulée « Garçon à moto dans l'état du Gujarat ». C'est en
Inde. Ouais, c'est une très belle photo. L'Inde est le sujet du dossier de la semaine. Selon les sources onusiennes, l'Inde serait le pays le plus peuplé du monde. Le Fonds monétaire international, FMI, prévoit pour l'Inde une croissance économique de 6,1% en 2023, l'un des taux les plus élevés parmi les puissances économiques, et de 6,8% en 2024, rappelle le Financial Times. Pour le moment, cette richesse n'est pas partagée. Il y a des centaines de millions de jeunes Indiens qui tuent le temps au travail, estime Ashoka Modi, auteur de l'essai « India is broken, l'Inde est cassée ». Mais cela n'entame pas l'attractivité internationale du pays. Avec la guerre en Ukraine et la montée en puissance de la Chine, l'Inde, qui assure la présidence tournante du G20, est plus que jamais un partenaire stratégique pour les États-Unis et l'Europe. L'Occident fait les yeux doux à New Delhi, quitte à fermer ses mêmes yeux sur l'extrémisme du gouvernement Modi, qui bafoue la liberté d'expression, la liberté de la presse et surtout, qui entretient toujours au nom de l'Hindutva, sa doctrine nationaliste, une haine contre les musulmans. Le système indien est en train de tourner à la tyrannie totale, juge le politologue indien de renom, Patrap Banu Mehta, dans l'une de ses chroniques publiées par The Indian Express. Depuis l'arrivée au pouvoir des nationalistes hindous en 2014, les crimes contre les minorités religieuses, et plus particulièrement contre les 200 millions de musulmans, 14% de la population, ont été multipliés par 4 entre 2014 et 2019, indique The Washington Post, un chiffre qui, pour le moment, ne fait pas frémir les partenaires commerciaux de l'Inde.
Télérama est très philosophique cette semaine.
D'abord avec l'invité qui nous rappelle « Nous sommes cette drôle d'espèce qui commence son existence dans la certitude de sa fin à venir. » Claire Marin, professeure en classe préparatoire aux grandes écoles. Elle s'intéresse au moment clé de l'existence, comme les maladies, les déplacements, les naissances, les deuils, les ruptures, qui à chaque fois affectent et reconfigurent le sens de notre vie. La philosophe poursuit aujourd'hui, entre sens du tragique et élan du désir, sa quête de pensée existentielle avec les débuts. Des débuts, il y en a sans cesse, tout au long du chemin, on peut être ramené à la case départ, repartir de zéro, recommencer. Face à cela, face à l'inquiétude et à la colère que notre époque génère, il me paraît essentiel de résister, de proposer d'autres représentations, d'amorcer d'autres perspectives sociales, politiques, existentielles, bref, d'ouvrir d'autres possibles. Et la chronique « Penser autrement » est consacrée à une autre philosophe, Claudine Tiercelin. Dans une société où le vrai est si chahuté, la philosophie en appelle à la métaphysique pour retrouver le sens du réel. Sa définition de la métaphysique nous éclaire. La métaphysique désigne ainsi la science de l'être, la compréhension de ce qui est, la connaissance du réel et l'analyse de ses propriétés. Elle rend possible un découpage de la réalité et fournit des critères opérant pour distinguer le vrai du faux, le réel de la fiction. Cette professeure hors pair, acerbe et pleine d'humour, n'hésite pas à évoquer cette commère de Diogène, Laërce, qui aurait fait merveille sur les réseaux sociaux. Allergique au nationalisme, la logicienne n'a qu'une préoccupation, démontrer que la vérité ne se réduit pas à ce que l'on tient pour vrai. À la question « Pourquoi consacrer cette année votre cours à la question du scepticisme ?», elle répond « Le sceptique se demande sans cesse si l'on n'est pas en train de prendre des vessies pour des lanternes. En doutant ainsi de tout, comme l'a théorisé le grec Pyrrhon au IVe siècle avant Jésus-Christ, il fait peser un soupçon généralisé sur la connaissance et la réalité du monde extérieur. Le scepticisme, en ce sens, n'est pas juste une position philosophique de plus, aux côtés du matérialisme, de l'idéalisme ou du réalisme. C'est un adversaire redoutable et radical qui cible la philosophie elle-même, comme le ferait une lettre anonyme, venant poser des problèmes cruciaux à celui qui la reçoit, sommé de scruter les raisons qu'il a de soutenir ce qu'il soutient. « Ce qui m'importe le plus, ajoute-t-elle, c'est de m'assurer que quand on parle bien de quelque chose et pas de rien, ni baratin, ni flatus vocis, paroles sans intérêt. » Passionnant, la sortie de son petit essai, je vous le recommande, « La post-vérité ou le dégoût du vrai » aux éditions Intervalles est prévue pour le 21 avril.
Et quel est l'avenir immédiat promis à ceux qui sont nés entre le 21 mars et le 20 avril par l'astrologue le plus original de la planète, Rob Bresny?
Savais-tu que René Descartes, né le 31 mars 1596 à La Haye, en Touraine, qui fut l'un des grands architectes de la philosophie et des sciences modernes, était comme toi, bélier? Son célèbre « Je pense, donc je suis » affirme que la composante analytique de l'intelligence l'emporte sur tout. Rares sont les livres d'histoire qui mentionnent l'intervention supernaturelle qui joua pourtant un si grand rôle dans son évolution de rationaliste absolu. Dans la nuit du 10 novembre 1619, il fit trois rêves qui changèrent sa vie et dessinèrent les contours de sa quête pour discerner la science miraculeuse à laquelle il allait consacrer les 30 prochaines années de sa vie. « Je pressens, Bélier, que tu es sur le point de faire une expérience ou deux du même acabit. Prépare-toi à recevoir la visite d'édifiantes fulgurances et de merveilleuses solutions à tes problèmes alors que tu te prélasses dans des états de conscience inhabituels et magiques. »
Medina Telfen, Bordeaux.
Campus Bordeaux.